Jeudi 14 septembre 2023, vous écoutez le studio Kalangou, il est 17h, l'heure du journal en français. Au micro, Rafika Taher. À la une, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie suspend le permis du port d'armes tout calibre confondu, l'achat des tenues des forces de défense et de sécurité jusqu'à nouvel ordre. Dans ce journal, vous suivrez le témoignage d'un commerçant de Malanville, ville du Bénin frontalière du Niger, sur l'impact que la fermeture des frontières a sur leurs activités. Et la partie magazine de cette édition va porter sur le déroulement de la campagne agricole à Saï, un département de la zone des trois frontières confronté à l'insécurité et au changement climatique. Bonsoir à tous. Dans un communiqué en date du 12 septembre, le ministre d'État de l'Intérieur indique que les autorisations d'introduction, de détention et de port d'armes de tout calibre délivrées par son ministère sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Il est également interdit la vente et l'achat des tenues militaires ainsi que tout autre effet ou objet de sécurité dont l'usage est exclusivement réservé aux forces de défense et de sécurité. Enfin, les stations de service de Niamey et des localités théâtres d'opérations militaires sont interdites de vendre plus de 2 bidons de 25 litres de carburant sous peine d'être poursuivis pour crime et délit d'atteinte ou de complicité d'atteinte à la sécurité de l'État. L'armée américaine a annoncé la reprise de ses missions antiterroristes au Niger. Ces opérations, qui comprennent l'utilisation des drones et d'autres aéronefs, sont menées depuis des bases aériennes situées dans le pays. Cette reprise intervient après une interruption notable de plus d'un mois, conséquence du coup d'État du 26 juillet au Niger. Cette information a été confirmée par le chef des forces aériennes américaines pour l'Europe et l'Afrique, le général James Hacker, lors de la conférence sur l'air, l'espace et la cybercriminalité de l'Association des forces aériennes et spatiales le 12 septembre dans l'État du Maryland. Cependant, cette reprise n'est pas totale. Certaines opérations restent en suspens. La décision de la fermeture des frontières par certains pays de la CEDEAO se fait gravement sentir aussi hors du Niger. Du côté du Malanville, la ville du Bénin, frontalière avec le Niger, les commerçants se plaignent de la mévente des produits, surtout agricoles, témoigne Kassim Munkail Marafa, un habitant de la ville. Il est au micro de notre envoyé spécial Mokhtar Hamadou.
Les populations de Malanville arrivent à peine à survivre à cause de la situation qui ne fait que s'empirer, car ce sont les Nigériens qui font leurs transactions dans cette ville de Malanville. Et si aujourd'hui ces Nigériens ne viennent plus acheter, ne serait-ce que le maïs, comme c'est le domaine que je connais le mieux, nous serons dans des difficultés. C'est entre autres les problèmes que nous rencontrons. Notre marché n'est plus animé. Le peu de maïs même qu'on vend est transporté dans des pirogues à Gaya. Et au cours de la traversée, les sacs sont endommagés, occasionnant d'énormes pertes. Vraiment, ça ne marche pas. Et tout cela au vu et au su des autorités béninoises, puisque les conséquences de cette situation n'épargnent personne, des personnalités aux simples citoyens.
Dans un communiqué publié le 12 septembre, le Quai d'Orsay avait demandé la libération immédiate de Stéphane Julien, un entrepreneur élu pour représenter la communauté française vivant au Niger. Stéphane Julien, qui avait été arrêté le 8 septembre dans le pays, a finalement été libéré hier, a indiqué le Quai d'Orsay sur son site internet. Cette arrestation était survenue alors que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ayant renversé le président Bazoum, demandait le retrait des troupes française et le départ de l'ambassadeur français du Niger. Lors de sa réunion trimestrielle qui s'est tenue hier 13 septembre, le conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation a évoqué les situations récentes au Niger relatives au coup d'État militaire survenu le 26 juillet. L'institution a décidé de suspendre son aide au Niger puisque ces événements vont à l'encontre des valeurs démocratiques défendues par le MCC et de ses critères d'éligibilité. Elle indique que les pays partenaires doivent adhérer en permanence à ces principes. L'Union africaine a officiellement intégré le G20 lors du dernier sommet de ce groupe des 20 puissances mondiales. Cette intégration des pays africains du G20 a un double avantage pour l'Afrique, estime l'économiste nigérien Amadou Louche Ibrahim, joint par notre reporter Tarnan Foudey Ahmed.
L'intégration de l'Union africaine, qui représente 55 pays au G20, est plutôt une bonne nouvelle pour le continent à double titre. D'abord, sur le plan diplomatique, cela fait des décennies que l'Afrique réclame une meilleure représentation dans les institutions internationales, puisqu'elle n'était jusque-là représentée au G20 que par un seul État, à savoir l'Afrique du Sud. Et au vu de l'importance qu'elle revêt de nos jours, il était impensable que sa voix compte moins en matière de gouvernance mondiale, et cette intégration devrait lui permettre de jouer un rôle significatif dans les organismes internationaux dans les années à venir. Ensuite, sur la question des enjeux économiques notamment. Au-delà de son poids démographique et financier, l'Afrique représente un enjeu géopolitique majeur dans le contexte mondial actuel. Et cette intégration doit permettre au continent d'être mieux représenté, mais surtout de peser sur l'évolution du système financier mondial, dont il réclame des réformes urgentes, notamment de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui oblige encore les pays africains à payer plus que les autres pour emprunter de l'argent, en aggravant ainsi leur dette.
Face à l'insécurité qui sévit dans la région de Tillabéri, les autorités nationales ont décidé de regrouper les enfants dans les écoles d'accueil situées dans plusieurs localités de la région. Quelle est la situation de ces écoles? Écoutons les explications d'Amadou Yakouba, directeur régional adjoint de l'éducation, au micro de notre envoyé spécial Salamatou Kadri.
Dans les écoles d'accueil, ils ont recensé 54 883 élèves, dont 26 127 filles. Ce qu'il faut relever, c'est que l'évaluation là a fait ressortir qu'il y a 106 écoles d'accueil fonctionnelles. C'est dans des écoles effectivement choisies à partir de critères bien précis. Avoir une position militaire non loin, un point d'eau, des infrastructures en dur, des situations sanitaires, c'est-à-dire un centre CSI autour, grosse localité. Donc c'est ça qui permet d'identifier le centre. On peut les trouver partout. Toutes les écoles de la ville de Toroudi sont des écoles d'accueil. Quand vous partez à Gauté, vous en trouvez. À Abala, toutes les écoles de la ville d'Abala sont des écoles d'accueil. À Terra, en dehors du CS de Terra et le CS franco-arabe, toutes les autres écoles sont des écoles d'accueil, au primaire comme au secondaire.
Certaines personnes de Tirozérine coupent des arbres pour faire du charbon de bois. Une situation qui met en péril l'environnement selon les spécialistes de l'environnement de la ville. C'est pourquoi le colonel Jari Al-Mustapha, chef du service des eaux et forêts de Tirozérine, lance un appel auprès de la population pour cesser de couper les arbres. On l'écoute au micro d'Ahmed Félan.
Ici, dans le département de Tirozérine, il y a le problème d'abattage d'arbres. Les gens abattent des grands arbres. Les producteurs de charbon sont ceux qui commettent le plus de dégâts. Il n'est pas dit de ne pas utiliser le bois. Les arbres sont pour tout le monde. Les gens doivent les protéger pour leur famille, pour leurs descendants. Nos ancêtres nous ont laissé ces arbres pour qu'ils soient utiles pour nous et pour l'environnement. Mais les gens abattent les arbres pour vendre et empocher l'argent. Alors qu'il y a le phénomène de désertification et d'érosion. Notre travail n'est pas d'arrêter les gens. Notre travail, c'est de les sensibiliser pour qu'ils prennent conscience que l'environnement leur appartient, pas à quelqu'un d'autre. L'État nous a confié ce travail pour la population. Le paysage n'est pas pour les agents des eaux et forêts. Ce n'est pas pour la commune non plus. Nous sommes là pour les aider à les protéger, pour qu'ils soient utiles pour eux et pour leurs descendants.
À Tessawa, la direction départementale en collaboration avec une mission nationale a saisi plusieurs kilogrammes de produits vétérinaires non autorisés à être utilisés. Cette opération a été faite dans le cadre d'un projet sous-régional qui veut assainir le marché de la vente des produits vétérinaires au marché. Au Niger, Dr Mati Ibrahim El-Hadj Aboubakar, directeur départemental de la direction de l'élevage de Tessawa, au micro de Ilia Moumouni.
Initialement, donc c'est dans le cadre d'un projet de l'IOMOA qui veut assainir le marché de la vente des produits vétérinaires au Niger, qui ne font pas partie de la liste des produits autorisés à être vendus sur le marché du Niger. Donc c'est en ce sens que hier, la mission était venue de Niamey. On a fait le tour, on a saisi à peu près 30 kg de produits vétérinaires sur le marché. Alors qu'on les a sensibilisés, on a sensibilisé les éleveurs aussi à ne pas acheter ce genre de produits qui, au lieu de guérir les animaux, contribuent à nuire les animaux. Et il y a même des répercussions. Aujourd'hui, les études ont montré que la quantité de viande contient beaucoup de produits ici, les traitements que les gens font. Donc, ça veut dire que la santé humaine peut être en danger. 60% des maladies humaines sont dues vraiment aux maladies animales.
Studio Kalangu, Hits Radio.
Cette année, la situation d'insécurité et les aléas climatiques pourraient impacter négativement sur le bon déroulement de la campagne agricole dans le département de Say, situé dans la zone des trois frontières. Le département compte environ 130 villages agricoles répartis dans trois communes, Tamou, Ourogeladio et la commune urbaine de Say. Ali Garbakouna, directeur départemental de l'agriculture de Say, est joint au téléphone par Soumana Amadou.
Quelle est la situation de la campagne agricole 2023 dans le département de Say?
On peut dire qu'elle a commencé assez précocement dans le département, avec les premières pluies enregistrées au cours de la deuxième décade du mois de mai. Néanmoins, les premiers semis 2000 ont souffert de plusieurs périodes de rupture de pluie, ayant occasionné des pertes de semis, notamment dans la plupart des villages de la commune urbaine de Say. Nous avons enregistré des villages qui ont eu des coups d'inondation. Et les cultures inondées, le mil, le sorgho et le riz. Pour la commune de Say, les villages qu'on a enregistrés sont au nombre de 9. Maintenant, nous sommes en train de suivre l'évolution des choses. Si ça ne va pas, ils seront considérés comme des villages déficitaires. En ce qui concerne la pluviométrie, cette campagne agricole d'hivernage se trouve déficitaire par rapport à la même période de l'année précédente. Donc, cette année, nous avons enregistré 409,5 mm en 25 jours contre 487 mm en 26 jours. En ce qui concerne toujours la campagne agricole, présentement l'état des cultures se présente avec une proportion excellente. Le stade phénologique se présente comme suit. Floraison grénaison pour les céréales et de la croissance à la jusqu'à la fructification au niveau des légumineuses.
Le département de Say est dans la zone des trois frontières. Est-ce que cela n'a pas impacté le déroulement de la campagne agricole?
La situation est un peu déplorable dans la commune de Tamou et Ourogeladio, où les populations ont été menacées de quitter, alors qu'ils ont déjà emblavé leur champ. Donc pour la commune de Tamou, nous avons 12 villages. Ourogeladio, nous avons recensé 16 villages. Le problème, c'est les déplacés qui étaient venus à Ourogeladio. Ils étaient venus avec leurs animaux. Donc la divagation de ces animaux-là, c'est eux qui ont dévasté les champs de la population haute. Maintenant, les villages qui se trouvent de l'autre côté du Gouribi, eux aussi, ils ont été menacés par les bandits de quitter les lieux. Donc, ils ont quitté, ils ont abandonné leur champ. Présentement, les villages-là, ils n'avaient rien trouvé comme culturel. En plus, à la zone nord du Tamou, les mouvements des djihadistes ont empêché les producteurs de cultiver leur champ. Toujours à Tamou, il y a l'installation d'une base qu'on appelle Garci, ce sont des gendarmes. Eux aussi, ils ont empêché la culture de mil juste pour l'insécurité. Donc, ils ont seulement autorisé les cultures de rente comme le niébé et l'arachide. Donc, en fin de compte, il y a des villages déficitaires qu'on va faire ressortir et peut-être on va faire la situation après.
Nous sommes au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Dans un instant, place à Habiba Ahmed pour la présentation du Tamashek. À 18h15, suivez le forum Anzarma réalisé à Baleyara avec pour thème l'impact de la fermeture des frontières. Quelle alternative pour le commerce dans le Tagazar? Et c'est dans une présentation de Abdelkarim Hassoumi Grouza. Réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement et le reste des productions sur l'application Studio Kalangou disponible sur Play Store. Studio
Kalangou. Les programmes du Studio Kalangou
Agadez
sur la radio Sahara 97 FM
à Arli
sur la radio Kausen 94 FM à Dogondouchi sur la radio Dalol
92.8 FM
à Tera sur la radio Liptako 98.7 FM à Madawa sur la radio Saraounia 102.1 FM. Studio Kalangou.